neurocérébrale. Donc, l'étude de 2009, elle a, je dirais, ils sont pionniers ces travaux parce qu'ils disent, ben, on observe une association sans parler de causalité. On observe une association, elle existe. Après, dans quel sens ça va? Est-ce que c'est l'alimentation qui est associée à une survenue de dépression? Est-ce que c'est l'inverse, sachant que quand on est déprimé, un des symptômes corps, c'est aussi une détérioration de son alimentation. Donc, et dans quel sens ça va? Dès qu'on parle de causalité, on se dit que c'est l'alimentation qui cause la dépression. Là, l'étude de 2009, elle ne permet pas d'aller sur cette conclusion-là. Donc, quand on parle de causalité, il y a déjà cette direction. Dans quelle direction va l'association? Deuxième aspect, quand on parle de causalité, c'est finalement la temporalité. Est-ce que quel est le temps de latence entre je mange bien et je vais mieux? Donc ça, c'est une question importante. Si l'alimentation a un rôle causal sur la dépression, on a envie de comprendre par quel mécanisme ça passe. Donc quelles sont les voies métaboliques, les voies biologiques qui expliquerait ce rôle de l'alimentation sur la dépression. Et quatrième point, vous l'avez mentionné, c'est si on imagine que l'alimentation a un rôle sur la dépression, bien on s'attendrait à avoir un rôle de l'alimentation, en tout cas une association entre la qualité de l'alimentation et des paramètres cérébraux comme des paramètres d'imagerie. Et tout ce dont je viens, tous ces éléments-là que je vous ai cités, bien, ça a fait l'objet d'un certain nombre de publications où on a été regardé la direction de l'association, on a regardé voilà les paramètres. Donc l'étude de 2018 s'est montrée bien que voilà les participants qui adhéraient le plus aux recommandations alimentaires, et bien présentaient des volumes hippocampiques plus larges 15 ans plus tard. Hippocampe qui une petite région du cerveau qui joue un rôle clé dans la dépression.
Et justement, pour rebondir sur cette question de la causalité, est-ce qu'on pourrait peut-être évoquer certains essais randomisés contrôlés, donc des études pour nos auditeurs qui sont très contrôlées et qui aident en général à déterminer la causalité? Peut-être que vous pourriez évoquer à la fois ce qu'il y a eu chez l'animal et aussi chez l'être humain. Il me semble que les premières études en essais randomisés contrôlés datent de 2010, si je ne dis pas de bêtises.
De 2015, enfin, chez l'humain. Déjà pour bien mettre les choses en place, hein, donc un essai randomisé, c'est ce qu'on utilise souvent en pharmaco. Quand on met en place quand on sort un nouveau médicament, on va prendre deux groupes de sujets, un groupe contrôle. Souvent on donne un placebo ou une pilule qui n'a pas l'effet actif, et puis un autre groupe d'intervention. Où là, il bénéficie de médicaments, et puis on observe est-ce que le groupe qui bénéficie de l'intervention va mieux par rapport au groupe contrôle. Et si c'est le cas, alors on dit effectivement le médicament il marche et il y a un effet causal de l'intervention. Sur l'alimentation, c'est toujours compliqué de faire un essai randomisé. Donc l'essai randomisé, hein, les participants ne savent pas s'ils reçoivent le traitement ou pas. Donc là, on voit clairement que sur l'alimentation, ça va être compliqué. On voit bien qu'on va pas pouvoir faire un groupe avec des gens qui mangent des pizzas, à qui on donne une mauvaise alimentation, et puis un groupe avec à qui on va donner des légumes, du poisson, des fibres complètes, et puis on regarde pendant 10 ans si un groupe va mieux. Donc on voit déjà conceptuellement, c'est toujours compliqué de faire des essais randomisés quand il s'agit de facteurs qui sont non pharmacologiques, non médicamenteux. On a ces mêmes problématiques quand on veut observer l'effet de l'activité physique. Et puis les participants, ils savent s'ils sont dans le groupe intervention ou pas, ce qui peut aussi biaiser un petit peu les résultats. Mais effectivement, cela n'a pas empêché quand même des études donc qu'on appelle randomisées, des études d'intervention, où des chercheurs, notamment australiens, ont fait un très très bel essai randomisé dans laquelle ils ont sélectionné des participants qui étaient déjà atteints donc de dépression majeure. Et sans toucher au traitement, c'est-à-dire sans toucher vraiment la prise en charge de ces patients, ils ont décomposé leurs patients en deux groupes, des patients qui ont bénéficié d'une intervention nutritionnelle qui visait à modifier, à améliorer la qualité de leur alimentation, avec des cours de cuisine, avec des voilà, quelque chose de vraiment très personnalisé, et ils m'ont comparé à un groupe dans lequel on favorisait un petit peu le je dirais l'épanouissement social. Donc c'était voilà des patients qui étaient vraiment pris en charge pour voilà pour sortir, pour aller au théâtre, pour faire du lien social. Et comparé au groupe lien social, eh bien le groupe qui a bénéficié d'une amélioration donc de leur alimentation ont montré effectivement une diminution importante de la sévérité de leurs symptômes dépressifs. Et vous savez les on parle souvent d'épisodes dépressifs. Au-delà de la dépression, on peut aller mieux à un moment donné et puis de nouveau retomber dans un épisode dépressif. Donc, on regarde aussi souvent plus que la survenue de dépression, on regarde plutôt la récurrence de symptômes dépressifs ou la sévérité des symptômes dépressifs. Et donc là, ces études-là, elles ont vraiment mis en évidence d'un effet important de l'alimentation sur l'amélioration des symptômes. En revanche, ces études, les études qui elles se basaient les études qui elles essayaient d'évaluer si finalement quand on donne un tel de vitamines, est-ce que ça marche sur la dépression ? Là, la réponse est plutôt non. Les études, qui ont été sur ce type d'intervention n'ont pas montré d'effets bénéfiques sur la trajectoire des épisodes dépressifs.
L'interview continue juste après Everytime de Miel.
Pretend you don't understand. I explained you a million times. Such a shame. You close your eyes on your sick ego and your lame friend. Wanted to hold on to you. What's the use? What's the use? Now I can tell myself I know me.
C'était Everytime de Miel et nous sommes de retour en plateau avec Tasnim Akbar Ali, chargée de recherche INSERM, spécialisée en épidémiologie nutritionnelle. Alors avant de reprendre l'interview, petit retour dans le temps, jusqu'à la Renaissance où les avancées en construction navale permettent de construire des bateaux qui peuvent partir en mer sur de longues durées. Alors que les voyages de plusieurs mois deviennent possibles, une étrange épidémie semble frapper soudain les marins. Aurore, que se passe-t-il exactement ?
Eh bien, au bout de 3 ou 4 mois en mer, les membres des équipages commencent à avoir de nombreux symptômes. Fatigue, perte d'appétit, amaigrissement, douleurs musculaires et articulaires. Et au fur et à mesure, les malades se mettent à présenter des problèmes de peau, des ecchymoses, et puis leurs dents se déchaussent avant de tomber. Sans aucun traitement, les troubles s'aggravent et les sujets atteints, incapables de se tenir debout, finissent par mourir d'épuisement ou de diverses complications. La raison, le scorbut. La maladie trouve son nom à partir du XVe siècle, mais on l'a également surnommée peste de mer ou mal de terre, puisqu'elle semblait guérir lorsque les malades revenaient à la terre ferme. Un désastre pour la navigation, parce que la fatigue des hommes atteints de scorbut était tellement intense qu'ils n'étaient plus capables de manier les voiles des navires. On pense que de nombreux naufrages étaient la conséquence du scorbut chez l'équipage. Pour vous donner un seul exemple, il était tellement répandu et dévastateur que le navigateur et explorateur portugais Vasco de Gama a perdu en 11 mois en mer près de 120 marins sur les 160 de son équipage.
Alors à cette époque, comment on expliquait cette maladie ?
Alors il y avait plusieurs théories concurrentes. Une d'entre elles attribuait le scorbut à une maladie de la rate qu'il n'éliminait plus la bile noire, un fluide qui n'existe pas d'ailleurs. Une autre théorie attribue la maladie à des facteurs alimentaires, climatiques, psychologiques, autrement dit la viande salée, l'eau croupie, le climat ou encore la mélancolie des longs voyages en mer. Enfin, quelques-uns attribuent la maladie à un déficit alimentaire, mais la nature même de ce déficit reste à définir.
Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour combattre ce scorbut ? C'est quoi la thérapie, la solution ?
Eh ben, comme je vous disais tout à l'heure, on a vite constaté que l'état des malades s'améliore rapidement pendant les escales, quand ils mangeaient des produits frais, et en particulier des agrumes. Mais bon, avec des navires toujours plus grands, plus nombreux sur la mer, les problèmes logistiques d'approvisionnement font que la maladie reste quand même très présente. Sans compter que les plus grandes flottes marchandes européennes viennent plutôt de l'Europe du Nord, et que les agrumes poussent plutôt dans le Sud. Alors pour qu'on contrecarre ça, on essaye de faire des plantations sur les chemins des navires. Et par exemple en 1661, le cap de Bonne-Espérance est couvert de près de 1000 citronniers. On essaye même d'en faire pousser à bord des bateaux, mais sans trop de succès. En 1795, la Royal Navy britannique réglemente une ration quotidienne de jus de citron pour chaque marin, additionnée de 10% d'alcool. Cette boisson est restée un secret militaire jusqu'en 1840, et c'est en partie ce qui donne un avantage à la flotte britannique au 19e siècle. Ça s'est traduit par des victoires navales, comme celle de Trafalgar, ou par la colonisation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Alors de là à dire que des guerres ont été remportées grâce à du jus de citron, il n'y a qu'un pas.
Mais aujourd'hui, Aurore, j'imagine qu'on a plus de réponses sur les causes de ce scorbut.
Oui, alors au début du XXe siècle, des chercheurs ont réussi à reproduire expérimentalement chez des cochons d'Inde le scorbut et son traitement par modification du régime alimentaire. Malheureusement, les chercheurs qui utilisaient des rats de laboratoire n'arrivaient pas à reproduire ces résultats sans comprendre pourquoi. En 1911, un autre groupe de chercheurs arrive à identifier des substances qu'ils appellent vitamines A et B, qui sont toutes deux nécessaires à la croissance des rats de laboratoire. Les partisans de l'hypothèse carentielle du scorbut ont donc cherché une vitamine C, dont le déficit pourrait expliquer le scorbut. En 1931, le chercheur hongrois Albert Szent-Györgyi, je ne suis pas sûr de la prononciation, en cherchant à identifier une substance qui empêche l'apparition des taches brunes sur les fruits qui pourrissent, a isolé cette fameuse vitamine C. Et il aura même un prix Nobel pour cette découverte. La vitamine C est en fait l'acide ascorbique, qui est l'abréviation d'acide antiscorbutique, antiscorbut. La vitamine C est essentielle à la formation du collagène, qui est un composant essentiel à certains de nos tissus. Sans vitamine C, on est fatigué, nos gencives ne peuvent plus tenir nos dents, notre peau, nos vaisseaux sanguins sont de plus en plus fragiles, etc. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les expériences pour reproduire le scorbut n'ont pas marché sur les rats. Eh bien en fait, la plupart des vertébrés produisent leur propre vitamine C au niveau du foie. Mais il existe quelques exceptions, le cochon d'Inde, sur lequel on a fait les premières expériences, une espèce de chauve-souris, et vous l'aurez compris, nous, l'humain, Homo sapiens, et nos cousins, les grands singes. Les réserves en vitamine C dépendent donc uniquement de notre alimentation, sous peine de développer le scorbut. Et à partir de tous ces résultats, le traitement du scorbut, il est extrêmement simple. Il consiste à donner 1 gramme de vitamine C par jour à un patient adulte. En prévention, une alimentation saine et riche en fruits et légumes frais. Mais ça, la marine anglaise l'avait déjà compris avec son jus de citron.
Mais c'est merveilleux, du coup j'imagine que c'est bon, aujourd'hui plus personne n'a le scorbut vu qu'on sait comment le soigner facilement.
Eh bien malheureusement c'est pas aussi simple, de nombreux groupes de personnes restent vulnérables à cette maladie. Ça peut être le cas de personnes qui souffrent d'alcoolisme, des personnes âgées qui seraient isolées ou des sans domicile fixe. Un état dit pré-scorbutique peut également être favorisé par le tabagisme, des pathologies digestives, le cancer ou le sida. En gros, tout ce qui va diminuer les apports en vitamine C ou augmente les besoins, comme la croissance, la grossesse ou l'allaitement. Depuis le début du XXIe siècle, on observe une augmentation du scorbut infantile dans les pays développés, et notamment chez des enfants issus de milieux défavorisés qui n'ont pas accès à une alimentation saine et équilibrée, parce que parfois c'est trop cher. Par exemple, aux États-Unis, une étude portant sur la période 2016-2020 montre que l'incidence du scorbut infantile a triplé. Alors, on peut se moquer un peu, mais en France, une étude montre également que l'incidence du scorbut a augmenté de près de 30% depuis la période post-Covid-19, à cause de l'instabilité socio-économique et de l'inflation des prix alimentaires. Le scorbut, c'est un exemple parfait de ce qui se passe quand on manque ne serait-ce que d'un seul nutriment dans notre alimentation. Notre corps est incapable de produire certains éléments qui lui sont essentiels, et sans ces apports, les conséquences peuvent être très graves, voire fatales. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'avoir une alimentation saine et variée.
Merci Aurore pour cette interview anti-scorbutique. Alors moi je vais me prendre un petit peu de jus de citron et je vais laisser Fabien reprendre l'interview avec notre invité. C'est à toi Fabien.
Dans cette première partie, on a parlé du lien entre alimentation et dépression avec la question de la causalité. Et nous sommes de retour en plateau avec notre invité Tasnim Akbarali pour parler plus spécifiquement d'alimentation. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de l'existence d'un lien entre l'alimentation et la dépression, mais on a assez peu mentionné les régimes alimentaires ou encore les aliments qui sont liés à la dépression. Commençons peut-être par ce qui ne marche pas. Une étude très récente de 2024, à laquelle vous avez contribué, explorait les risques de récurrence des symptômes dépressifs et la consommation d'aliments ultra transformés. Quels sont les résultats de cette étude ? Et est-ce que l'association vaut aussi pour le premier épisode dépressif ?
Alors, merci pour cette question. Effectivement, j'ai conduit donc ces travaux de recherche qui visaient à explorer le rôle de ces aliments ultra transformés. Alors, les aliments ultra transformés, ce sont donc tous ces aliments qui ont été donc modifiés et transformés par des process industriels qui visent à modifier leur couleur, leur texture, leur goût et qui vont aussi modifier bien souvent leur conservation et leur durée de conservation. Et donc, ces aliments transformés, on commence à en entendre beaucoup parler aujourd'hui. Depuis quelques années, on a une équipe de l'INSERM à Paris qui a pu montrer un risque important entre la consommation de ces aliments ultra transformés et un risque de diabète, d'obésité, cancer du sein également. Et donc, on s'est dit, mais c'était quand même très intéressant de voir s'il y avait une association entre une forte consommation de ces aliments ultra transformés et le risque de dépression. Donc, dans cette étude, je me suis encore une fois intéressée aux participants de l'étude, de notre étude anglaise, et les fonctionnaires anglais, qui sont donc, je le rappelle, des adultes, des personnes qui étaient âgées entre 35 et 55 ans à l'inclusion, suivies depuis pas mal d'années. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà souvent dans ce qu'on appelle un âge un peu en anglais, on dit pré-elderly, donc c'est, voyez, fin de vie adulte, avant d'entrer du vieillissement. Donc nous, on s'est intéressé à la récurrence des symptômes dépressifs parce que souvent, à cette période de vie, on a déjà connu un épisode de vie dépressif, et l'hypothèse, c'était vraiment de se dire, mais ces aliments ultra transformés, ils ont un impact sur les voies, notamment les processus inflammatoires. Ces aliments ultra transformés, ils augmentent de façon importante l'inflammation chronique. En tout cas, nous, c'était l'hypothèse qu'on avait. Et donc, du coup, on dit dans quelle mesure, eh bien, cela pourrait participer à aggraver les trajectoires de symptômes dépressifs, donc à finalement multiplier les épisodes dépressifs chez ces personnes-là. Et on a pu effectivement montrer que la forte consommation d'aliments ultra transformés augmentait d'un tiers le risque de survenue d'épisodes dépressifs. Mais on a d'autres études qui se sont vraiment intéressées à la survenue de dépression, et elles retrouvent également des résultats assez comparables, à savoir que quand on a une consommation d'aliments ultra transformés importante par rapport à ceux qui en ont qui ne consomment pas ce type de produit, eh bien cela augmentait le risque de survenue de dépression. Donc c'est effectivement important de mettre en valeur ces résultats, parce que Encore une fois, les aliments ultra transformés sont de plus en plus abondants dans les rayons des supermarchés. Et en fait, ils ont sont souvent des produits aussi très peu chers, fortement en hausse de consommation. Et donc, bon, c'est extrêmement important d'éviter ce type de produit parce que vraiment les risques sur la santé cardiovasculaire, métabolique sont importants. Mais ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on montre aussi qu'ils ont un rôle important sur la santé mentale.
Parlons maintenant d'associations positives et d'une autre de vos études, une revue de littérature et méta-analyse de 2018. Alors, on rappelle pour nos auditeuristes que les revues de littérature et les méta-analyses sont des études qui fonctionnent comme des synthèses de plusieurs études et qui permettent d'obtenir des réponses plus précises à une question scientifique. Cette étude avait permis d'identifier, en outre, que les personnes qui adhéraient à un régime alimentaire dit méditerranéen ou à un régime alimentaire faiblement inflammatoire montrait des risques relatifs de dépression bien moins importants. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces deux types de régimes alimentaires et de cette étude ?
Les revues de littérature et les méta-analyses, elles viennent à un moment donné faire le point sur, finalement, on se pose une question. Beaucoup d'équipes de recherche dans le monde entier étudient ces liens entre alimentation et dépression. Et c'était important, me semble-t-il, de pouvoir... arriver à faire une synthèse, de dire bon, finalement, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il n'y a pas un lien quand on prend les choses de façon très globale. Donc l'idée, c'était de prendre toutes les études de façon vraiment exhaustive, toutes les études qui ont étudié le lien entre alimentation dans son entier. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que aujourd'hui on a plein de recommandations alimentaires qui existent. Donc quand on adhère à ces recommandations alimentaires par rapport à ceux qui n'adhèrent pas à ces recommandations, est-ce que le risque de dépression est plus élevé, moins élevé, et de combien? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris donc toutes ces études, ce qui, pour vous donner un chiffre, hein, ça représente plus de 36 000 participants au niveau mondial, avec voilà différents pays, des hommes, des femmes, différentes cultures. Parce que vous savez, les habitudes alimentaires, elles sont d'abord liées à une culture. Et donc, on a tenté de rassembler, d'unifier toutes ces études qui peuvent parler aussi de choses un petit peu différentes, et donc de pouvoir donner d'abord une tendance, et puis de façon, c'est important aussi de pouvoir quantifier, dire bah, l'alimentation là maintenant, ça fait 10 ans qu'on montre que elle est bien associée à la survenue, donc la temporalité, on l'a traité dans les études, mais maintenant on montre qu'il y a un lien, mais qui est associé avec quoi et qu'est-ce qui permet de réduire de combien la survenue de symptômes dépressifs. Donc cette étude répondait à ces deux questions. Donc on a pris toutes les recommandations alimentaires qui existent, donc on a en tout cas toutes celles qui ont été étudiées. Donc vous avez parlé du régime méditerranéen, c'est ce qu'on avait mis nous un peu en avant dans le papier parce que tout le monde a entendu au moins une fois parler de ce fameux régime méditerranéen, mais il y a aussi d'autres régimes qui eux visent à réduire les mécanismes de pro-inflammation. Il y a des régimes qui eux visent à plus stopper l'hypertension. Il y a voilà, vous avez plein de régimes, donc on a pris tous ces régimes là et effectivement ce qu'on montrait, et c'était le cas pour à peu près tous les régimes, c'est que toutes ces recommandations alimentaires, c'est que quand les participants qui adhéraient le mieux à ces recommandations alimentaires par rapport à ceux qui adhéraient le moins diminuaient de 30% leur risque de dépression, ce qui est un chiffre qui est important. On n'est pas sur un effet mineur, bien sûr 30%. Et encore une fois, la revue de littérature, c'était indépendamment de vous prenez un traitement ou vous prenez pas de traitement. La conclusion de cette méta-analyse, c'était pas de dire l'alimentation ne vient pas se substituer à un traitement. Par contre, elle peut venir apporter une protection et dans un contexte qui est important et on l'a pas forcément dit en introduction. Et je pense que c'est aussi un élément qui nous a poussé à étudier l'alimentation, c'est que on a heureusement hein, dans la dépression, on a des thérapies qui existent, on a des psychothérapies, on a des traitements médicamenteux qui marchent évidemment et qui peuvent être très efficaces. Mais ce qu'on observe, c'est que certaines études le mettent en avant, c'est qu'en fait ces thérapies, qu'elles soient médicamenteuses ou pas, elles peuvent être très efficaces sur un épisode dépressif et ne pas l'être sur un épisode dépressif chez la même personne plus tard. Et donc, quand les traitements ne permettent pas une rémission, bien c'est là où on peut trouver toute l'utilité d'une médecine nutritionnelle qui n'a pas d'effet secondaire, ce qui est souvent reproché par les patients sur les traitements, c'est qu'il y a parfois des effets secondaires qui sont importants. Et là, effectivement, sur l'alimentation, bah, vous avez finalement une médecine possible sans effet secondaire et avec en plus des effets bénéfiques sur d'autres fonctions organiques du corps.
Et très vite, du coup, est-ce qu'on pourrait illustrer un peu ces régimes alimentaires ? À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Est-ce qu'ils ont des points communs ? On a dit qu'il y en avait plusieurs qui avaient des effets bénéfiques. Voilà, pour que nos auditeuristes puissent se faire une idée un peu de voilà à quoi ressemble un régime alimentaire qui est plutôt bénéfique dans ce cadre.
Alors oui, par exemple, on peut prendre un indice alimentaire que moi j'utilise beaucoup dans mes recherches. C'est le Alternative Healthy Eating Index. Donc pour traduire, ça serait on pourrait l'appeler des recommandations un petit peu voilà des recommandations alimentaires alternatives parce qu'elles sont alternatives par rapport à un ancien indice qui avait été mis en place aux États-Unis. Et donc quand on regarde un petit peu dans le détail, eh bien ce sont en fait, on va poser des questions sur un certain nombre d'items alimentaires, donc par exemple les légumes, les fruits, les céréales, la consommation de boissons sucrées, la consommation de légumineuses, de noix, de viande, quel type de graisse on utilise dans sa cuisine ou qu'on consomme, le sel, la consommation d'alcool. Souvent, on a un petit peu ces items-là qui reviennent. Et donc, les différents indices, donc globalement, ce nombre ce type d'items dans leur score. Et en fait, on parle de score parce que on va demander aux personnes, par exemple, si je prends le Alternative Healthy Eating Index, c'est un indice très simple. On demande aux personnes combien de fois par jour elles mangent des légumes. Donc, si elles en mangent plus de 5 fois, on va considérer qu'elles ont 10 points. Et puis, si elles en mangent 0, elles ont 0 points. Et donc, faites une règle de 3. Donc ça, c'est vraiment très simple. On va faire ça pour tous les aliments et on va avoir un score. Et donc, c'est comme ça qu'on va arriver à dire, ben voilà, la personne, elle adhère aux recommandations bien, moins bien, très peu. Et c'est comme ça qu'on va scorer, entre guillemets, la qualité de l'alimentation. Donc, on voit bien qu'on n'est pas sur une liste de légumes à manger ou pas. C'est vraiment dans sa globalité. C'est-à-dire que si vous mangez 5 fruits et légumes, mais que derrière vous allez 4 fois manger des produits ultra transformés, vous voyez bien qu'on passe, voilà. Donc c'est vraiment une façon de mesurer son alimentation dans son entier, et c'est toujours l'alimentation, c'est toujours une moyenne de ce qu'on consomme finalement. On consomme très bien un jour, mais très mal un autre jour. Au final, la balance bénéfique, elle sera de zéro sur les processus biologiques.
Je me permets de rajouter que ce que vous venez de conseiller, Alternative Healthy Eating Index, que personnellement je ne connaissais pas, je le rajouterai en description du podcast pour que nos auditeurs, auditrices puissent eux-mêmes aller se faire un petit score. J'imagine qu'il doit y avoir un site internet ou un lien où on peut aller.
Oui, et puis après vous avez de la même manière le régime méditerranéen. Vous pouvez voilà calculer un petit peu si vous êtes effectivement plutôt en bon adhérent ou plutôt pas trop. On n'est pas sur des scores. Hein. Enfin, je pense qu'il faut vraiment dire aux auditeurs, faut être très très tranquille là-dessus. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de dire si vous avez un score de 51 versus 49, tout va très mal. C'est vraiment faut vraiment avoir ces scores plutôt comme une boussole, les utiliser comme une boussole plus que sur quelque chose de restrictif ou de punitif. Parce que en plus on a en français on a ce problème-là, c'est qu'on parle de régime. Alimentaire, c'est-à-dire, quand on parle de régime, honnêtement, ça donne envie à personne. Hein. Rien que le mot est repoussoir. En anglais, on dit diet, donc on dit alimentation. Et je crois que déjà, rien que ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça me permet en plus d'ouvrir sur autre chose. C'est-à-dire que là, on parle d'aliments, donc derrière, hein, les légumes, les fruits, et évidemment ces hypothèses de nutriments spécifiques, qui vont venir jouer dans certains mécanismes. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas beaucoup explorées, comme là, par exemple, la chronobiologie. À quel moment, selon le nombre de repas par jour, à quel moment vous les prenez, comment vous les prenez, avec qui vous les prenez, si vous les regardez, vous les prenez en regardant la télé, si vous les prenez en étant debout, vite fait. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi c'est vrai, l'alimentation, c'est, moi je trouve que c'est une exposition extrêmement passionnante parce qu'elle est multifacette et qu'elle est très liée aussi à notre identité, à notre manière de se construire, et en même temps on peut aussi très vite la changer sans changer d'identité, bien évidemment. Donc c'est passionnant.
On fait une petite pause en écoutant Pressure Become Me de Yasmina Saddiqui et on revient juste après pour la suite de l'interview.
They become chimes. Time is chiming into my life. To the clock, I'm alright, yeah. These are deranged, sickening times. I keep my mess tucked. You have spaces to make greatness. Will I make greatness out of cages? I make greatness, I make. You could be following behind, but still lead the line, yeah. It's only me who has my own back, and yeah, I'm good with it. Oh yes, I'm cool with it. Pressure I keep putting on my world. Pressure becomes me, and yeah, I'm cool, and so cool with it. Woo-hoo. She's so cool, cool. What? Much to do, do. Steaming when it's freezing. My expectations of me to me. Please don't deceive me. To some God I pray the praying away. I pray that someday I won't need to pray. Glitching, I'm twitching, my senses are flinching. Can you pinch me like you pinch them? Give me a kiss and I'll kiss it. Cause I'm just like that. Kiss it, kiss it. Yeah. Cause I'm just like that, that, that. It's only me who has my own back. And yeah, pressure I keep putting on my world. Pressure becomes me. And yeah, I'm cool, it's so cool.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Tasnim Akbar Ali, on a parlé un peu du rôle des, on a parlé des nutriments, on a parlé d'alimentation, de régime alimentaire. J'aimerais bien justement évoquer la question d'un nutriment très particulier qui est celui des oméga-3 et son lien avec la dépression. Il y a récemment une revue systématique de littérature et méta-analyse qui est sortie en 2023 et qui suggère potentiellement des effets bénéfiques de certains oméga-3, notamment à chaîne longue, sur la dépression. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, s'il y a des preuves d'efficacité, est-ce que c'est suffisamment solide?
Alors effectivement, oui, c'est ça, vraiment, ça fait partie des aliments, enfin des nutriments extrêmement importants, les acides gras, ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés, qui sont des acides gras de longue chaîne, et en particulier les acides gras, voilà, les oméga 3, on a plusieurs types, hein, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, et qu'on trouve essentiellement dans des huiles végétales. Dans l'huile végétale et puis également dans les oméga 3 dans des poissons qu'on appelle les poissons gras. Voilà, donc ce sont des nutriments extrêmement importants parce qu'il faut savoir que le cerveau est très riche en lipides et notamment les acides gras polyinsaturés sont extrêmement importants pour tout le système membranaire cérébrale et donc ces oméga 3 viennent également jouer un rôle extrêmement important notamment dans ce qu'on va appeler les phénomènes de d'oxydation et donc là les oméga 3 vont venir aussi jouer un rôle très important pour limiter les effets du stress oxydatif sur le cerveau, mais également vont également jouer un rôle extrêmement important. C'est ce qu'on appelle vraiment des aliments anti-inflammatoires. Donc, ils vont être extrêmement importants pour justement lutter contre les processus inflammatoires qui sont qui constituent vraiment une piste centrale dans la physiopathologie de la dépression. Donc en termes d'études, alors effectivement, vous avez beaucoup de littérature sur les oméga 3, ce sont pas des nutriments très facilement mesurables dans le sens où si vous voulez, c'est toujours compliqué d'estimer les oméga 3 que vous consommez à partir d'un questionnaire. On a aujourd'hui, il est vraiment préférable d'aller sur des mesures biologiques d'oméga 3. Donc c'est quelque chose qu'on fait dans les études de cohorte. Et après, les études sur les oméga 3 sont aussi très nombreuses où on est vraiment sur quel type d'oméga 3 spécifiquement, quel dosage et encore une fois vraiment des études qui visent à aussi comprendre dans quelle mesure finalement les oméga 3 pourraient venir aussi dans un sens balancer les effets d'une alimentation moins bonne. Donc on est toujours sur je crois que ce qui est important c'est qu'on n'est pas, on n'est vraiment pas, quand on parle de psychiatrie nutritionnelle, on n'est vraiment pas sur des nutriments miracles qui viendraient finalement tout résoudre. Mais la compréhension de finalement les effets des oméga 3 et les effets, parce que je pense que vraiment ça c'est encore une fois la dépression est une maladie multifactorielle, donc bon les oméga 3 vont venir jouer à plusieurs niveaux et vont apporter de la protection à plusieurs niveaux, mais c'est effectivement comprendre lesquels et puis de vraiment bien identifier les différentes voies et sur quelles voies ils vont être potentiellement protecteurs. Parce que là encore, vous avez d'autres pistes biologiques. Et plus récemment, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle l'axe microbiote, donc intestin-cerveau, avec des réseaux neuronaux qui sont au niveau intestinal et qui vont évidemment avoir une communication bidirectionnelle entre l'intestin, le cerveau et le cerveau et l'intestin. Et donc là encore, une alimentation qui va permettre d'être très bénéfique sur le microbiote sans doute être extrêmement importante aussi sur les voies physiopathologiques qui mènent à la dépression.
Est-ce que vous pensez du coup que c'est un peu prématuré de faire des recommandations en termes de d'oméga 3 à prendre dans l'alimentation en complément et pareil pour tout ce qui est fibres et peut-être qui aide le microbiote intestinal?
Alors pour le moment, c'est vrai qu'on est, enfin moi j'aurais envie de dire c'est un peu prématuré, surtout dans le contexte où vous m'avez posé la question tout à l'heure sur les essais randomisés et ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi quand on modifie l'alimentation dans son entier, on a des effets qui sont plutôt des interventions qui ont un effet bénéfique. Et pourquoi, quand on est sur des cocktails de vitamines pour lesquels on a des hypothèses fortes, ça ne marche pas? Donc, je crois que justement la possibilité de pouvoir aller explorer des études de cohorte et de pouvoir avancer sur les liens vraiment qui permettent de prévenir les dysbioses intestinales, c'est-à-dire les petits trous qu'on peut avoir dans la paroi intestinale qui vont ensuite libérer des toxines qui vont être très impactantes dans les mécanismes qui mènent à la dépression. Je crois qu'on est encore dans essayer de comprendre. Et faut savoir, quand on commence à lancer des essais randomisés, ce sont des études qui coûtent très cher. Et donc, pour moi, avant de lancer une étude, c'est quand même très important de se dire mais pour qui une intervention serait bénéfique, avec quelle intervention, et combien de temps. Et voilà, c'est quand même des questions qui sont importantes avant de se lancer comme ça dans des essais randomisés, en se disant bah tiens, si on montre que c'est efficace, est-ce que c'est par chance, est-ce que c'est, enfin voilà, je pense que c'est important, parce que du coup on s'adresse quand même à des personnes qui ont des pathologies, qui sont à risque de pathologie et qui sont dans cette anxiété. Et justement, aujourd'hui, on assiste quand même beaucoup à de la désinformation ou de la mésinformation. Il suffit d'aller sur Google, vous avez les 5 fruits et légumes les 5 aliments pour éviter ci, pour éviter ça. Je crois que vraiment, faut éviter de tomber là-dedans. Autant on a des recommandations alimentaires qui existent. Et donc, pour y adhérer, eh bien, effectivement, ça demande de modifier peut-être certaines habitudes alimentaires. Mais, commençons déjà par réduire la part d'ultra transformés dans nos assiettes. Commençons à adhérer tout doucement, voilà, aux recommandations alimentaires qui existent, à changer tout doucement son alimentation de façon durable, plutôt que d'aller se précipiter pour aller acheter des fibres et des compléments et des choses qui sont pas forcément, qui vont pas forcément avoir un effet, parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas d'études qui montrent l'efficacité d'une supplémentation en nutriments sur la dépression. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais pour l'instant, on ne les a pas observés.
Sur la question du durable, en 2019, la commission Heat-Lancet a été officiellement mise en place. Alors, il s'agit pour nos auditeuristes d'une collaboration internationale et pluridisciplinaire de chercheurs et de chercheuses visant à répondre à une question brûlante. Quelle alimentation pour nourrir 10 milliards d'humains en 2050, en respectant bien sûr les limites planétaires? La Commission imagine un régime alimentaire avec certaines restrictions moyennes, comme par exemple 153 kilocalories de produits laitiers par jour, moins de 100 grammes de viande et de poisson combinés dans la même mesure par jour, environ 2 fois plus de calories par jour provenant des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, pois cassés, etc., et des oléagineux, par exemple les noix, les amandes, les noisettes, que de la viande. Tasnim Akbarali, est-ce que bien manger pour sa santé mentale, c'est compatible avec la santé de la planète?
Oui, alors effectivement, ce sont des recommandations qui sont alimentaires et qui ont été faites par un consortium de chercheurs qui ont, pour certains d'entre eux, commencé justement à faire cette révolution de quitter le nutriment spécifique pour aller sur l'alimentation dans son entier. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui disent que effectivement les recommandations alimentaires, ce qui est bon pour la santé de l'homme, elle doit l'être d'abord aussi pour l'environnement, et qu'on est vraiment sur une dimension one health, hein, donc une santé, puisqu'effectivement l'idée, c'est vraiment de se dire comment on fait pour avoir des recommandations alimentaires qui soient à la fois bonnes pour l'homme et à la fois bonnes pour l'environnement de l'homme, et sans ça on n'est pas on peut pas continuer à avoir des recommandations alimentaires qui seraient non durables. Donc l'idée, c'est, il faut parce que encore une fois l'alimentation, c'est une des premières sources d'émissions de gaz à effet de serre, et donc l'idée, elle est aussi là, c'est de se dire mais en fait, dans les recommandations alimentaires aujourd'hui, quand on fait des recommandations alimentaires, elles doivent forcément être respectueuses de l'environnement. Et donc, quand on produit Donc on a besoin de protéines, de glucides, de lipides. On est omnivore, donc on a besoin voilà de certaines protéines. Il y a des périodes dans la vie où on est en plus sur des vulnérabilités. Je parle des périodes petite enfance, des périodes par exemple de grossesse ou des périodes de vulnérabilité du haut grand âge. On a là encore des recommandations alimentaires qui doivent être vraiment précises et qu'il faut respecter. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de manger voilà de la viande rouge tous les jours, etc. Et en plus, ça tombe bien parce que ça va à l'encontre des recommandations alimentaires. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bah, quand on consomme trop de viande rouge, bah, ça augmente notre inflammation, notre risque d'inflammation chronique, qui lui va être responsable et bah, de diabète, de maladies cardiovasculaires, qui elles-mêmes sont associées au risque de dépression. Quand on a du diabète, quand on a des maladies cardiovasculaires, on augmente son risque de santé mentale et ça va dans les deux sens. Donc, on est aujourd'hui vraiment sur des recommandations alimentaires qui respectent l'environnement. Aujourd'hui, on est en train de tester ces recommandations alimentaires vis-à-vis de la santé mentale très spécifiquement. Donc, on est vraiment en cours d'analyse. Donc, je reviendrai vers vous dans quelques mois, éventuellement, si j'ai ce plaisir, pour venir vous donner les résultats de ces nouvelles recherches.
Eh bien, merci beaucoup, Tasnim Akbarali, d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie surtout de l'intérêt que vous portez à ce champ de recherche qui est très nouveau, hein, la psychiatrie nutritionnelle. C'est un champ de recherche extrêmement nouveau et important parce que aujourd'hui, quand vous allez chez votre médecin généraliste, vous avez un diabète ou vous êtes à risque de maladie cardiovasculaire, la première recommandation qu'il va vous faire, c'est d'aller faire une consultation nutritionnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important que les auditeurs et que les médecins généralistes et la communauté, je dirais, du soin, prennent conscience aussi que la médecine nutritionnelle a un intérêt majeur dans la santé mentale et cognitive.
Merci beaucoup à Tasnim Akbarali, chargée de recherche INSERM, spécialisée en épidémiologie et psychiatrie nutritionnelle. Merci également à Aurore pour sa chronique spéciale Scorbut et à Fabien pour l'interview. Une émission préparée et animée par Fabien Desec et Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur lelabodessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude.
Radio G 105.5 FM.
Le quart d'heure en juin. Votre rendez-vous des musiques de l'Anjou. Le samedi de 14h à 15h.
Et oui, bonjour, vous êtes toujours fidèles au quart d'heure en juin, comme tous les samedis de 14h à 15h, avec encore une grande équipe au complet, comme il y a 15 jours. On a notre ami Jean-Pierre, toujours à la technique.
Toujours là, toujours fidèlement au poste. Bonjour à tous.
On a toujours Tiffaine.
Bonjour, bonjour.
Il n'avait pas parlé d'ailleurs la semaine dernière, il y a 15 jours plus tard.
Non.
On a Fabienne qui est revenue.
Bonjour.
Bonjour Fabienne. On a aussi Adrien qui a fait ses premiers efforts il y a 15 jours.
Il est encore là, c'est moi. Bonjour à tous.
Et on a Sandra qui est revenue tellement elle a aimé l'émission.
Oui. Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Première participation à cette émission et je suis très contente d'être là. La semaine dernière, c'était super aussi.
Et nous sommes très contents de t'accueillir une nouvelle fois. Et on a aussi Marc qui vient superviser au cas où il y aurait un problème, quelqu'un qui tombe dans les pommes ou autre. Et on va commencer avec un peu de rock, avec un groupe qui s'appelait The Dancers, groupe en juin, indie pop, qui a été propulsé même en France jusqu'en Angleterre. Et ils ont même vécu un moment à Brighton, et ils ont emporté avec eux un album, et notamment un titre qui a eu du succès, qui s'appelait Seagulls, les Dancers.
I was expecting things to turn out better, like a voice whispering, ah, the freckles in your eyes are mirrors for the sea. Mirrors for the sea.
Des Dancers, sympa ce petit morceau, n'est-ce pas?
Ouais, plutôt joyeux. Hein.
On s'imagine, oui, se balader tranquillement dans les rues d'Angers, sous un soleil radieux. En tout cas, je ne sais pas si c'est radieux ce que va nous proposer notre punky Tiffaine, mais en tout cas, on a le plaisir de l'entendre une nouvelle fois.
Oui, alors, quand j'ai proposé mon groupe, le premier groupe que je voulais proposer, on m'a dit, c'est un peu punk, non?
Alors, je sais pas ce que vous allez en penser, mais pour moi, Ultra Vomit, c'est plutôt un groupe de heavy metal. C'est un groupe parodique français créé en 1999, originaire de Nantes. Bon, vous allez me dire pourquoi j'en parle dans le quart d'heure angevin. Eh bien, depuis 2014 maintenant, le bassiste est un jeune maugeois. Mathieu Bosson, dit le Farfadet, a rejoint les vétérans Nicolas Patras, dit le roi fœtus, à la guitare et au chant. Emmanuel Colombier, dit l'elfe manard, à la batterie et au cœur, ainsi que Fabien Le Floc, dit Jojo Framboise ou le nain Flocos, à la guitare principale et au cœur. J'aime beaucoup leurs petits noms.
Oui, moi aussi.
Et moi, je les ai découverts ados avec leur reprise d'une souris verte. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ils aimaient bien reprendre des comptines et je trouvais ça assez cool, le délire des comptines en métal. Rien qu'à l'idée que je passe ce morceau, certains de mes collègues se bouchent les oreilles. Mais je vous assure que le morceau que j'ai choisi pourrait être toléré par votre ouïe si sensible. Avant de vous le faire découvrir, j'aimerais préciser qu'Ultra Vomit est un groupe qui n'hésite pas à passer des messages forts dans leurs parodies. Je prends comme exemple Pink Pantera de l'album Panzer Surprise, durant lequel le chanteur répète Pink Power, en référence à l'affaire visant le chanteur de Pantera, Phil Anselmo, qui à la fin d'un concert a fait un salut nazi en hurlant White Power. Message très fort donc. J'ai choisi de vous présenter un autre morceau qui porte un message qui me touche. Celui-ci est une parodie d'un de leurs propres morceaux. Là, c'est puissant. Alors, pour ceux qui connaissent la version originale, je vous assure que la version parodiée est bien plus mignonne. Le titre est « Je ne t'ai jamais autant aimé ». Je ne fais pas de faute de liaison. Le titre s'écrit de cette façon. « Je ne t'ai jamais autant aimé ». Et je vous laisserai découvrir la version originale, hein, qui est beaucoup moins mignonne, comme je vous le disais, que celle que je vous partage aujourd'hui. Et cette version a été écrite en partenariat avec la SPA. Je vous laisse découvrir.
Autant aimé que depuis que tu t'es en allé, je ne t'ai jamais autant ôté ta culotte. Maintenant que t'es morte, notre amour est éternel, libre et rebelle. Notre amour.